Transcontinent Queer, des nouvelles d'un bout à l'autre du Canada.
Et oui, on a beaucoup parlé des élections aux États-Unis depuis presque deux semaines maintenant, notamment avec le retour de Donald Trump, Donald Trump 2.0, et la prise de contrôle totale du Congrès par son groupe et des craintes pour les personnes de la diversité et de genre, diversité sexuelle et de genre. Bien, il y a eu trois élections provinciales qui ont peut-être passé inaperçues pour nous au Canada, puis il y en a une autre qui s'en vient en novembre dans la Nouvelle-Écosse. Eh bien, des décisions politiques avec plein de conséquences aussi pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre ici au Canada. Alors, pour en discuter, je reçois nos correspondants et correspondantes, Dan Robichaud à Clare, en Nouvelle-Écosse, Arnaud Baudry à Toronto et Roseva Forge-Jenkins à Edmonton. Salut tous les trois!
Bonjour!
Alors, on va commencer dans l'Ouest. C'est une grosse journée, Roseva. On va parler de, avant de parler d'élections, on va parler de l'Alberta et de Danielle Smith, la première ministre, qui s'en prend aux communautés trans. Et pas rien qu'un peu, là.
Oui, non, c'est vraiment affreux. Elle a vraiment rédigé les politiques qu'elle veut mettre en place pour vraiment parler des pronoms des jeunes, donc les jeunes qui sont à l'école, qui demandent le consentement des parents pour avoir changé leur pronom ou leur nom à l'école. On a parlé des sports, des femmes trans qui participent dans les sports et ainsi que le fait d'avoir accès aux bloqueurs de puberté pour les hommes et pour les jeunes.
Oui, c'est assez... en fait, on a parlé un peu avant avec une personne qui expliquait justement que c'est vraiment désastreux là, ce qui se passe, les personnes trans en Alberta. Alors, comment, c'est quoi les réactions? Est-ce qu'il y a de la mobilisation? Comment ça fonctionne? Là? Parce que c'est quand même assez sérieux, là.
Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on est très, on est tous très, très inquiets parce que elle a le pouvoir comme gouvernement conservateur. Par contre, en Alberta, on a quand même un gouvernement NPD qui est très contre, qui est très vocal, qui dit c'est pas correct, qu'est-ce qu'elle fait.
Oui, l'opposition du NPD, tu me disais, oui, OK. Oui.
Oui, l'opposition du NPD, c'est que l'Alberta, on mérite mieux, ces jeunes méritent mieux, ces jeunes méritent d'être en sécurité, puis ils savent que c'est ce que Danielle Smith propose, c'est vraiment dangereux. Et on voit aussi des organismes, organisme national égal Canada ainsi qu'un organisme à Calgary qui s'appelle Skipping Stone Foundation.
Oui.
Ils disent que si ces lois passent, qu'ils vont prendre action juridique contre le gouvernement de l'Alberta.
En tout cas, on a entendu parler là, de personnes qui se sont suicidées aux États-Unis, des personnes trans, là, à la suite des élections présidentielles là-bas. J'espère qu'on ne verra pas la même chose en Alberta. Est-ce qu'il y a des cas qui sont rapportés? Est-ce qu'on entend parler que les gens sont en détresse là, vis-à-vis de tout ça?
Bien, les jeunes, oui, qu'on voit, tu sais, on voit beaucoup des gens qui participent à des manifestations, on voit des positifs, puis, tu sais, les jeunes sont inquiets, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas, des taux de suicide, mais c'est juste l'inquiétude des parents, de tout le monde, de la communauté.
Ouais, écoute, c'est vraiment grave. Écoute, on va aller faire un petit tour du côté de l'Atlantique, parce que là aussi, il se passe des choses au niveau politique. Tout un revirement qu'on peut qualifier peut-être d'encourageant pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Le Nouveau-Brunswick a montré la porte au gouvernement conservateur de Brian Higgs, qui, on se rappelle, qu'il avait adopté des mesures très, très, très dures envers les jeunes trans. Dan, parle-nous de ça.
Ben oui, c'est une victoire importante pour les communautés queer et trans au Nouveau-Brunswick. Le Parti libéral a remporté les élections. Ça a mis fin quasiment tout de suite au mandat de Blaine Higgs, le gouvernement conservateur, qui avait instauré les changements controversés, notamment la réforme de la politique 713, qui rendait bien plus difficile pour les jeunes trans de trouver un milieu sécuritaire chez les écoles.
Ouais, puis en fait, même lui, Brian Higgs, a perdu dans sa propre circonscription. Hein. C'est vraiment un désaveu total. Hein.
Tout à fait. Puis pas juste au côté queer et trans, aussi mais du côté de la femme,
ouais.
Parce que c'est la plus jeune. C'est la première fois que c'est une femme première ministre au Nouveau-Brunswick. Et on a déjà vu qu'elle a fait des changements, elle a fait des reversements sur des politiques au sujet de la femme et l'avortement. Puis on attend juste pour voir quand est-ce qu'il va être le jour qu'on va faire renverser les changements de la politique 713. Mais c'est un gros soulagement qui sort de tout le Nouveau-Brunswick que finalement on peut respirer.
On va retourner dans l'Ouest. Deux élections provinciales ont eu lieu là-bas. Le très conservateur Scott Moe en Saskatchewan a été réélu, mais avec une courte majorité. Ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'il y a désespoir maintenant pour les personnes trans ou le mouvement, en fait, pour bloquer ses ambitions anti-trans à Scott Moe?
Oui, c'est intéressant parce qu'une des choses qu'il a dit, c'est étrange élu. Une des premières choses, ça va être regarder aux jeunes. On sait que la loi, que les jeunes, pour leur pronom, que les jeunes pour demander le pour changer le pronom à l'école. Mais il a dit, oh, ma priorité, si je gagne l'élection, ça serait que les vestiaires, que tu sais, il parle du, on met en guillemets, sexe biologique, que les personnes, dans les jeunes aux écoles, il faudrait qu'ils changent dans les, tu sais, où est-ce qu'il dit, les sexes biologiques pour les vestiaires de changement. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très inquiétant. Et juste après qu'il a annoncé ceci, il a dit, oh non, 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 j'ai dit quelque chose, j'ai mal parlé. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ma première priorité. C'est quelque chose que je veux parler. Je veux en faire plus tard. C'est quelque chose que je veux en parler. Mais c'est pas numéro un. J'ai mal dit ça. C'est quelque chose que je veux faire plus de consultation. Alors, tu sais, peut-être que le fait qu'il a changé ce qu'il dit, c'est que peut-être s'il fait taper ses doigts, peut-être que quelqu'un lui a dit c'est pas correct, qu'on peut, tu sais, on commence pas avec ça, là. Alors,
De toute façon,
peut-être.
le résultat des élections a démontré que son parti est pratiquement évincé des régions municipales, des régions urbaines. Il a passé très proche de perdre cette élection-là quand même. On ne parle peut-être pas d'aussi serré qu'en Colombie-Britannique, mais quand même, justement. Écoute, on va aller en Colombie-Britannique, réélection du NPD, mais là aussi, oh, la majorité est courte, c'est ce qu'on doit craindre, là.
Oui, non, je pense que c'est quelque chose que, tu sais, on sait qu'avec la NPD, on est en sécurité en CB pour les personnes queer et trans, mais c'est ça, le fait qu'il y a tellement de conservatisme, je pense que les gens, quand on pense à la CB, on pense, oh, Vancouver, Victoria, tout est très libéral. Mais il faut s'en souvenir que le CB, c'est très grand. Il y a beaucoup d'autres municipalités que c'est encore très conservateur. Alors, je pense qu'il faut quand même être vraiment. C'est sur la défensive, puis être certaine que la CB, qu'on reste dans la NPD parce que c'est le fait que c'est tellement proche, c'est inquiétant.
Bien, de toute façon, le chef du Parti conservateur, hein, avait quand même des positions aussi assez inquiétantes, non seulement au sujet des pronoms puis des comme ailleurs, mais lui aussi voulait interdire tout ce qui était référence queer ou trans dans les livres, hein, dans les écoles, dans les bibliothèques. C'est assez sérieux, hein?
Oui, très extrême. Puis d'autres personnes dans son parti aussi, c'est pas juste lui, mais d'autres personnes aussi dans son parti qui sont très, très conservateurs. Donc c'est inquiétant. Puis tu sais, ouais, c'est ça, on a peur là.
On va retourner faire un petit tour dans l'Est, puis on s'en va en Ontario après, mais on va aller voir, Dan, il y a des élections en Nouvelle-Écosse. C'est prévu le 26 novembre. Qu'est-ce qu'on peut dire là-bas?
Ben, pour la Nouvelle-Écosse, on peut dire que c'est un peu moins polarisé que dans d'autres provinces. C'est moins à la où les questions queer et trans sont moins à la une que dans certaines autres provinces. Le gouvernement conservateur actuel a point vraiment pris de position ou de mesures ouvertement hostiles contre les droits des personnes trans ou queer. Mais il faut dire que pour les conservateurs, l'engagement reste un peu timide. C'est plutôt à l'opposition libérale ou néo-démocrate qu'on propose plutôt des changements et des engagements plus fermes en matière d'inclusivité trans et queer. Et beaucoup de ça, c'est des retombées des manifestations pour la politique 713 au Nouveau-Brunswick et d'assurer que cela n'arrivera jamais en Nouvelle-Écosse.
Ah, ben
Alors,
oui.
des choses.
Ben oui, parce que lui, il doit regarder un peu ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick. Il s'est dit, oh boy, je m'en vais pas dans cette route-là, là.
Donc, les enjeux sont présents, même si qu'au niveau de la campagne, on ne le met pas par en avant, les enjeux sont présents.
Avant d'aller parler de l'Ontario et puis de la fermeture bientôt là, du Centre canadien de la diversité sexuelle, j'aurais le goût de vous poser la question, je n'étais pas préparé, mais. Quand on regarde ça augure comment pour les fédérales? Parce qu'il y a des élections fédérales en 2025, là, ça s'en vient plus vite que plus tôt que plus tard. Est-ce qu'on peut craindre, surtout que le gouvernement en place ici de Trudeau est très, très peu. En fait, il est en difficulté. Je pense que je vais lancer Arnaud là-dessus.
Bah, écoute, vu le tableau qu'on dresse là, c'est quand même très inquiétant, plus le contexte aux États-Unis. Il y a comme un vent de conservatisme dans l'air, donc c'est pas de bon augure, mais justement, d'où l'intérêt de mettre les sujets sur la table et de continuer à parler des enjeux, parce que ça reste des enjeux d'actualité.
Oui, puis je ne sais pas si le message va être envoyé aux conservateurs fédéraux, là, que si vous parlez trop de choses anti-trans, ça peut vous nuire, comme ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, Dan?
Oui, absolument. Le plus gros danger, comme moi, je suis tout le bout de la je suis séropositif. Ça fait qu'au niveau fédéral, il y a une couleur que moi, je ne voterai jamais pour parce qu'il peut se faire des rebours qui me coûteraient très cher, littéralement, me coûteraient très cher. On pourrait couper du financement qui va aux provinces, qui est utilisé pour les médicaments pour les personnes avec le VIH. Et si on parle de garder le statu quo, ben, nous autres, on parle dans la communauté de faire des améliorations sur le système qu'on a. Ce n'est pas une question de garder le statu quo. Alors, il faut voter au niveau fédéral en vertu de ça.
Mais bon, puis je vais aller faire un petit tour en Alberta. Roosevelt, moi, j'ai vécu en Alberta, puis on avait un dicton à l'époque. On disait, tu prends une boîte de cornflakes, ta peinture en bleu, puis elle va gagner ses élections pour le Parti conservateur. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais le fait, là, qu'il y a quand même des. Tu sais, Scott Moe s'est fait dire que tu vas peut-être trop loin. Les élections, les résultats des élections ont montré là, que c'est peut-être trop. On a vu ce qui est arrivé aux conservateurs au Nouveau-Brunswick quand ils prennent le virage conservateur social. Est-ce que toi, tu sens ça que peut-être que les conservateurs fédéraux qui ont quand même 20 points d'avance, qui ont le vent dans les voiles, est-ce que ça pourrait là, les faire réfléchir avant d'aller en campagne électorale puis de faire une campagne sur le dos des personnes trans et queer?
Ben, c'est ça. En Alberta, comme on sait, il y a quelques petits points NPD, mais il y a tellement de conservatisme que ici, c'est vraiment. Puis on voit beaucoup de camions, c'est très classique Albertain, beaucoup de camions qui disent un mot
Oui, le mot en F
Trudeau,
qu'on peut pas
disons.
dire en ondes, oui.
Alors.
Ouais. Fait que c'est.
Exactement. C'est quelque chose qu'on voit très, très, très souvent. Alors, je pense que les libéraux en Alberta, c'est pas quelque chose que les gens sont grands fans. Alors, c'est ça que j'ai peur qu'on voit au lieu que les gens voient aller vers les conservateurs.
Ouais. Bon, on va aller faire un petit tour en Ontario parce que Arnaud Baudry, il y a une très mauvaise nouvelle pour les communautés de la diversité sexuelle et de genre chez vous.
Oui, la mauvaise nouvelle, c'est que le Centre canadien pour la diversité sexuelle et de genre a fermé ses portes pour banqueroute en octobre. Et c'était un peu une grosse surprise parce que ça n'a pas été vraiment annoncé en avance. En plus, ils étaient, comme cet été, ils venaient de finaliser un accord entre leurs membres. Comment unionisé là,
Ouais,
comment on dit?
les syndiqués, oui, une
Les
entente de principe avec
syndiqués,
leurs
voilà,
syndicats, oui.
merci. Et puis la direction, et ça, c'est donc c'était comme si c'était en avant. Puis là, grande surprise, donc ils ont fermé leurs portes après 19 ans d'existence. Puis c'était vraiment un centre important pour les jeunes, parce qu'ils offraient des programmes contre l'intimidation, l'homophobie, la transphobie, autant dans les écoles, auprès des jeunes, auprès du personnel, puis auprès de la communauté en général.
C'est un peu comme le gris ici à Montréal, mais moi, je me demande, ça met en lumière là, aussi la précarité là, des organismes LGBTQ+ au Canada.
Oui, la précarité des financements et puis aussi le désalignement entre les besoins qui sont exprimés dans la communauté et puis les sources de financement pour répondre à ces besoins. Et c'est sûr qu'on le vit au quotidien, c'est le stress du financement qui nous dérive un peu de notre mission. Ça serait vraiment formidable d'avoir une politique de financement des organisations communautaires qui leur permettent de vraiment se focaliser sur leur mission, donc des financements à la mission qui permettraient aux organisations de livrer leur service et de se focaliser sur la livraison de services plutôt que s'inquiéter des sources de financement et de travailler sous le stress en mode projet avec des financements courts.
Oui, c'est beaucoup ce que disent les organismes communautaires. Ils sont financés, ils sont sous-financés et mal financés parce qu'on les finance par projet, puis ils doivent toujours adapter leur programmation au niveau des projets. Ça, c'est compliqué, puis c'est un travail qui est très chronophage pour les organismes. Toi, tu gères l'organisme Franco-Couer. J'imagine que c'est quelque chose que tu fais au quotidien, ça.
Oui, c'est effectivement chronophage et compliqué. Et c'est assez étrange aussi dans l'optique de se dire il faut toujours trouver des nouveaux projets, alors que parfois il y a des choses qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves et qu'on veut continuer à livrer. Mais non, il y a des programmes de financement qui vont nous demander de se renouveler. J'entends et je comprends parce que c'est important de se renouveler et puis d'apporter des choses nouvelles, mais c'est aussi important de soutenir les choses qui fonctionnent. Et je pense qu'il y a des programmes de financement qui pourraient être vus ou créés à la lumière des besoins de la communauté et à la lumière du fonctionnement des organisations, surtout quand on est des petites organisations communautaires qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, on va essayer quand même de privilégier les moyens vers la livraison de services plutôt que vers l'administratif et la bureaucratie.
Merci beaucoup à toi, Arnaud Baudry à Toronto. Merci aussi à Dan Robichaud à Clare, en Nouvelle-Écosse, et puis à Rose-Eva Falk-Jenkins à Edmonton. Merci.